En 2002, devant le Haut Conseil de la francophonie, Jacques Chirac, le président de la République française, avait regretté la faible place de la langue française dans le domaine de l'audiovisuel international, un terrain d'influence stratégique dominé par les anglo-saxons. Et maintenant, Philippe Duvaux, face aux géants américains et anglais, CNN et BBC World, il y a désormais France 24.
Une tente géante dressée dans le jardin des Tuileries à Paris, 3000 invités triés sur le volet pour accompagner le Premier ministre Dominique de Villepin. Une lumière bleue sur le fronton de l'Assemblée nationale avec le logo France 24. Il est 20h30 à Paris, 19h30 GMT. Écoutez, la chaîne d'information internationale de langue française est née.
Bienvenue sur France 24 pour cette toute première édition de la chaîne française d'information internationale.
170 journalistes, une trentaine de nationalités et une charte qui les engage à défendre trois valeurs. La diversité des points de vue, le sens du débat, la culture et l'art de vivre à la française. France 24 est contrôlée à part égale entre deux groupes, France Télévisions, c'est le service public, et la chaîne privée TF1. Écoutez Jacques Chirac quelques minutes après le lancement.
Il est indispensable qu'un grand pays comme la France puisse avoir son regard sur le monde et diffuser ce regard. Conforme à nos traditions, à notre conception de la civilisation, de la paix, de l'humanisme, de la mondialisation. Et c'est ça, en réalité, qui sera exprimé, je pense, par France 24.
La naissance de France 24 a été bien accueillie dans le paysage audiovisuel international. Le correspondant d'Al Jazeera à Paris, au micro de Corinne Audouin, en témoigne.
Le pluralisme médiatique est un élément très encourageant au pluralisme politique. Comme ça, le monde ne devient pas monopolaire, ni dans l'information, ni dans la politique.
Pour écouter France 24 sur Internet, c'est très simple, France 24 en un seul mot, .com.
En Belgique, Robin Cornet, toute la classe politique se mobilise pour défendre l'emploi dans une usine de Volkswagen à Bruxelles.
Oui, cette usine Volkswagen, c'était le plus gros employeur de la région bruxelloise. Elle produisait surtout 200 000 exemplaires de la Golf, une production qui va être délocalisée vers l'Allemagne, ce qui coûterait 4 000 emplois à l'usine belge. Sans compter les pertes chez les fournisseurs et sous-traitants, on a parlé de plus de 10 000 emplois au total.
Mais la mobilisation a tout de même porté des fruits.
Oui, la direction envisage maintenant de faire produire un modèle d'Audi à Bruxelles, ce qui permettrait de garder quelque 3000 travailleurs sur 5200. C'est ce qu'on a appris ce vendredi lors d'une réunion entre le Premier ministre et les grands patrons du groupe allemand. Mais ce serait seulement à partir de 2009. D'ici là, eh bien, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, il y a une condition, la productivité va devoir augmenter et les coûts vont devoir diminuer.
Et puis, ce samedi, Robin, pour défendre l'emploi, justement, il y a des milliers de personnes qui ont manifesté à Bruxelles.
Oui, de 20 à 25 000 personnes en solidarité avec ces travailleurs de Volkswagen. Un soutien apprécié, nous dit cet ouvrier.
J'ai vu un peu du sourire aux lèvres des gens, ceux qui n'avaient perdu depuis quelques semaines. Je crois que c'est très positif, mais ça ne fait que commencer. Le combat continue. Les jours à venir vont être très durs.
De nombreuses personnalités politiques étaient présentes, ainsi que des délégations syndicales de différents pays, y compris d'Allemagne ou encore de France. Écoutez ce représentant de la CGT.
C'est la même logique qui est à l'œuvre dans tous les pays européens. La Belgique n'est pas la seule touchée. C'est l'Europe telle qu'elle se construit actuellement avec la place que prend les marchés financiers qui exigent de l'industrie des taux de rentabilité importants qui conduit les entreprises à licencier. C'est le profit contre l'emploi.
Le secteur automobile belge a perdu la moitié de ses effectifs depuis 1990 avec notamment la fermeture, il y a tout juste 10 ans, de l'usine Renault de Vilvoorde.
Alors Bit, ça y est, vous avez posé le dermographe. Donc dermographe, c'est la machine à tatouer. Vous êtes le patron ici d'Ethnotatou à Lausanne. Ça fait 17 ans que vous tatouez. Vous avez noté quelle évolution en l'espace de 17 ans ?
Donc c'est devenu un petit peu accessible à plus de monde. Avant, c'était plus renfermé, c'était plus un truc marginal. Puis maintenant, ça se démocratise un petit peu, tout en gardant le côté marginal pour des pièces un peu plus larges, un peu plus grandes, quoi.
Finalement, maintenant, les petits tatouages, ça choque plus personne.
Ça choque si c'est mal fait ou bien mal placé, je pense. Mais sinon, non, je pense que c'est un joli tatou, ça choque personne.
La clientèle que vous aviez au début, il y a 17 ans, c'était quel type de clientèle ?
C'est des marginaux, des gens qui venaient un peu des bas fonds. T'avais affaire ou bien à 2-3 gangsters, t'avais affaire à des gens qui n'avaient pas d'argent, qui venaient de troquer. C'était peut-être plus authentique, je pense.
Est-ce qu'il y a des gens que vous rencontrez qui regrettent tel ou tel tatou, qui veulent se le faire enlever ou recouvrir ? Ça arrive ?
Alors ça arrive justement depuis qu'il y a la mode qui est rentrée en ligne de compte. Parce qu'il y en a, ils se font tatouer un truc parce qu'ils l'ont vu sur une star ou bien parce que ça fait bien de se faire tatouer. Donc là, c'est une démarche complètement à côté de ses pompes. Je veux dire, le tatou, c'est à vie, il faut vivre avec. Et puis, on se fait pas tatouer parce qu'un autre s'est fait tatouer, on se fait tatouer parce qu'on en a envie. Moi, je pense que le tatou, c'est un passage dans la vie, on marque un passage. Donc, moi, personnellement, je regrette rien de ma vie, mais c'est clair que si quelqu'un marque, je sais pas, si à 20 ans, tu marques le nom de ta gonzesse et puis qu'à 20 ans et demi, t'es plus avec, forcément que c'est une connerie. Mais non, on te le dira aussi que c'est une connerie.
Je m'appelle Laure, j'ai 18 ans, je suis en apprentissage d'esthéticienne, j'habite Lausanne. Bon, en fait, c'était le premier tatouage que je voulais faire, c'était une fée en fait. Je l'ai fait sur un coup de tête. J'avais de l'argent, je suis allée chez le tatoueur et je l'ai fait.
Quand on a un tatouage qui nous plaît plus, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Soit le recouvrir, soit le détatouage au laser par exemple ?
Ouais, tout à fait, t'as tout dit là. J'ai rien d'autre à rajouter. Bah, tu peux le recouvrir ou bien l'enlever quoi. Mais l'enlever, ça coûte bonbon. Le recouvrir, bah, c'est un peu plus long aussi qu'un tatou normal. Donc, le mieux, c'est de réfléchir avant.
Pirates aren't the friendliest of people. Sometimes they handle your own head.
Je m'appelle Sandra. J'ai bientôt 39 ans. Je travaille dans une entreprise télécommunication.
Aujourd'hui, vous êtes en train de faire votre deuxième tatouage, c'est le bas du dos. Pouvez-vous nous parler de ce motif ?
C'est un motif que j'ai posé depuis des années, mais j'ai mis un bon moment avant de trouver quel dessin réellement je voulais, et comment je voulais le faire et réellement à quel endroit je voulais l'avoir. C'était vraiment un choix et puis quelque chose de réfléchi, de personnel, et puis moi je l'ai fait surtout dans le but de faire quelque chose d'esthétique, je dirais même comme un bijou un peu.
Dans votre entourage, les gens ils en pensent quoi du tatouage ?
La plupart des gens, aucun problème, il y a quelques personnes qui n'aiment pas trop. Ma maman, je lui ai caché que j'avais fait mon premier tatouage pendant des années, et puis ouais, là elle n'est pas super pour, elle m'a dit qu'elle trouvait ça un peu gros, mais de toute façon, c'est pas grave, quoi. Elle me laisse faire ce que je veux. Bon, de toute façon, à mon âge, mais ça lui plaît pas 100%.
Je pensais que dans une ville comme Lausanne, assez urbaine comme ça et branchée, entre guillemets, le tatouage aujourd'hui, ça pose plus de problèmes.
Non, je crois pas alors.
Vous pensez que les tatouages que vous avez, vous les regretterez jamais ?
Oui, parce que je les ai posés longtemps. C'est pas du tout un caprice ou une mode ou quelque chose dont je me lasserais. C'est vraiment un souci d'améliorer des endroits de mon corps. Et puis, je trouve ça même un petit peu érotique parfois. Donc, non, je pense que je les regretterai pas.
Moi, je m'appelle Max, je viens de Moudon, j'ai 27 ans. Puis je suis ouvrier de fabrication.
Donc là dans le dos vous avez deux chiens, c'est les portraits de vos chiens à vous ?
C'est les deux chiens que j'avais moi, le mâle qui est à gauche c'est le mien et celui qui est à droite c'est celui de ma frangine. La femelle ça fait 2 ans qu'elle est décédée et le mâle ça fait 1 année.
Donc là finalement vous avez un souvenir sur la peau pour la vie quoi ?
Voilà pour la vie quoi, parce que c'est des chiens que j'ai aimés depuis toujours quoi.
Donc là, il est en train de finir le dos, c'est ça, Laurent ? Il fait quoi, là ?
Là, il est en train de finir, en fait, le tatouage qu'on a commencé ensemble. Là, on a fait 3 séances ensemble. Et puis là, il est en train de fignoler un peu la fin du tatouage, en fait. Disons que si on part sur un coup de tête, je pense qu'on peut regretter un tatouage. Mais si c'est un truc qui est quand même bien réfléchi, quoi, je pense qu'on ne regrette pas, quoi.
Adol a été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grandeur de grand con. Elle est conne pour Manu. Tu fais de la peine, mon rêve de perdu.
Comme le disait Charles Poncet en début d'émission, est-ce que les politiques n'utilisent pas finalement ce genre de méthode pour faire de la prévention à bon marché ?
Bon, je crois que le politique essaye de mettre en place les meilleures solutions à des problèmes donnés. Alors la sécurité, c'est un problème important. Je crois qu'il touche tout le monde. Et quand on voit ce qui s'est passé dernièrement en Allemagne, où on a évité peut-être des centaines de morts grâce à une vidéosurveillance, moi je crois que la preuve elle est là toute faite. Enfin, on ne peut pas se priver de moyens techniques performants si on sait qu'on a réussi à éviter des morts. C'est important, la vie.
Je crois vraiment que s'il y avait un guide Michelin de la langue de bois, Mme Cohen-Dumanie, vous auriez 3 étoiles. Parce que ce que vous dites est tout à fait étonnant. Vous faites complètement l'impasse, d'abord, sur le fait que l'introduction systématique de caméras de vidéosurveillance, c'est un échec. D'abord, c'est un échec d'une société devenue incapable d'assurer le minimum de sécurité à nos concitoyennes et à nos concitoyens. J'en appelle aux quinquagénaires et aux sexagénaires qui nous écoutent. Imaginez-vous ce que nos parents auraient dit si on leur avait dit, si les prédécesseurs de Mme Cohen-Dumanie avaient dit « On est incapable d'assurer l'ordre dans le préau d'une école à Lutry, il faut mettre des caméras. On n'est pas capable, avec les enseignants, avec la police, de faire régner l'ordre dans un préau d'école. » Donc c'est d'abord un constat d'échec. Et puis deuxième remarque, et ensuite je me tais. Deuxième remarque, derrière une caméra, il y a quelqu'un qui regarde. Est-ce que parents d'élèves qui sont à l'écoute de la radio romande ce matin, est-ce que vous avez vraiment envie que des employés d'une société de sécurité quelconque se rincent l'œil en regardant votre fille bécoter son petit copain dans la cour d'un préau? C'est ça la vidéosurveillance aussi. Donc le débat n'est pas seulement un débat d'efficacité, mais c'est un débat de compatibilité de ce genre de mesures avec les valeurs fondamentales d'une société libérale.
Madame Alors, Monsieur Poncet, moi j'apprécie énormément votre verve. Je crois que c'est important d'avoir aussi un langage d'intellectuel. On en a besoin d'un intellectuel. Vous faites penser à un intellectuel assis confortablement dans son fauteuil qui n'a pas été confronté à des responsabilités d'ordre public.
Non,
si vous l'aviez été, Monsieur Poncet, attendez, je termine.
Je
si
m'asseyais
vous
déjà dans des cabinets de juges d'instruction pour défendre des victimes quand vous étiez encore à l'école enfantine.
Mais écoutez, alors, oui, mais vous
discours,
les avez.
Ne me faites pas le discours de celui qui ne sait pas.
Non, hein. vous savez très bien, mais vous n'avez peut-être pas été confronté sur le terrain, Monsieur Poncet.
Si
vous l'avez été,
vous.
Peut-être bien. Mais je peux vous dire, si vous aviez vu ces jours, vous auriez peut-être changé d'avis. Ce qui se passe aujourd'hui, le politique, il essaye d'utiliser aussi les moyens techniques performants. C'est important d'évoluer avec notre société. Plutôt que de se dire, mais non, il y a des moyens techniques, mais essayons de travailler quand même uniquement avec les moyens humains. Non, aujourd'hui, notre société, elle va dans ce sens-là. On pourrait se dire, Internet, c'est mauvais pour la santé, supprimons Internet. Non, on essaye plutôt de trouver des moyens d'accompagnement.
Internet suppose un choix de celui qui y va. La caméra vidéo, par définition, ne permet pas le choix de celui qui y est soumis. C'est ça
Monsieur
la différence.
Maître Poncet, vous avez une image un petit peu simpliste, je voulais revenir à cela.
On imagine déjà vu pas... quelqu'un, madame. Vous êtes déjà allé voir
attendez,
dans une salle, dans une salle de surveillance, vous êtes déjà allé entendre les commentaires des jeunes gens qui sont derrière les écrans.
Écoutez,
vous l'avez déjà
croyez,
fait une fois.
Vous croyez sérieusement qu'à l'école de Lutry, vous imaginez qu'il y a une personne derrière les caméras qui observe toute la journée ce qui se passe dans l'école? Si c'était le cas, on n'avait pas... Si c'était le cas, on n'avait qu'à mettre un surveillant. C'est impossible. Donc vous savez très bien que les données, elles sont enregistrées et qu'elles seront utilisées que si vraiment il y a une infraction. Et ça, c'est important. Vous en arrivez à la deuxième volée, je pensais que vous alliez l'évoquer. C'est le cadre légal. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Qu'est-ce qu'on fait de ces enregistrements? Et c'est là qu'est le problème. Nous, on est des politiques, eh bien on devrait se dire, essayons de légiférer pour donner un cadre à une utilisation d'un outil moderne qui existe, qui est là, qui est présent dans notre vie. Que vous alliez dans un parking, vous êtes filmé de la même façon. Eh bien, moi, je trouve qu'il faut plutôt s'atteler à cela, à la législation.
Tout autant. Vous n'avez pas répondu à la question du constat d'échec. Notre société est devenue incapable d'assurer le minimum d'ordre auquel chacun d'entre nous a droit et le minimum de sécurité simplement par une présence policière sur le terrain.
Mais ce n'est pas vrai
Elle
ce
en
que vous dites.
Elle est devenue incapable.
Ce n'est pas vrai ce que vous dites. La présence policière sur le terrain est indispensable. Simplement, si on voulait mettre des policiers à toutes les écoles, dans toutes les écoles, dans tous les endroits chauds, dans tous les centres de loisirs. Je ne sais pas si vous imaginez seulement combien il en faudrait. New York a agi ainsi, avec son système très performant. Mais nous, si
et
on voulait le faire, il faudrait des milliers et des milliers et des millions de francs.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous avons une densité de policiers au kilomètre carré qui est tout à fait comparable à celle de la ville de New York.
la vraie controverse aujourd'hui, rappelle Daniel Miéville dans un article, toujours dans Le Temps, eh bien, porte évidemment sur le Proche-Orient. Faut-il envoyer des soldats suisses au Liban ? Et c'est là, à Berne, que le débat fait rage. Le Liban, au chevet duquel se trouve notamment le CICR, l'hebdomadaire L'Illustré qui sort aujourd'hui, a suivi sur les routes parsemées de décombres une équipe de la Croix-Rouge. Christian Rappa a rencontré des délégués qui perçoivent l'odeur de la mort, qui plane partout, et a rencontré aussi une population qui n'a qu'un seul but. Ce seul but, c'est reconstruire. Et en arrière-fond du Liban plane bien sûr l'ombre de l'Iran. L'Iran qui continue de jouer habilement au chat et à la souris avec les grandes puissances sur la question du nucléaire. C'est la constatation de Philippe Dumartorel en 24 heures. Et dans ce contexte, eh bien notre confrère ne peut, il ne peut s'empêcher de remettre au goût du jour, vous savez, la célèbre phrase de Montesquieu, « Comment peut-on être persan ?» Petite phrase qui va sans doute pour notre confrère obséder George Bush et surtout pourrir le reste de son mandat présidentiel. Car autant dire, remarque pour sa part Antoine Gessler dans Nouvelliste, autant dire que Téhéran aujourd'hui tient bel et bien, dans l'affaire du nucléaire, tient bel et bien le couteau par le bout du manche. Et c'est une même formule que vous retrouverez d'ailleurs sous la plume de Pierre-André Chapat dans le quotidien jurassien.
Pour la première fois depuis les années 80, un rapport note une amélioration du taux global de survie des enfants en Afrique. On peut lire cette bonne nouvelle dans le rapport intitulé « Une chance pour les nouveaux-nés en Afrique », un rapport auquel, entre autres, participait l'OMS. Et pour en parler, donc, un des co-auteurs du rapport que j'ai joint à Brazzaville, à l'OMS Afro, le docteur Abimana Fanuel. Bonjour, docteur Fanuel.
Bonjour, madame.
Vous avez en quelque sorte trouvé une recette du progrès, non?
En fait, ce qui a changé ces dernières années, c'est il y a eu une amélioration des connaissances. Hein. Mm-hmm. Pour vous donner un exemple, on sait aujourd'hui, à travers des études, qu'il meurt 4 millions de nouveaux-nés chaque année et que 1 million de ces nouveaux-nés se trouvent en Afrique et que 75% des pays avec des taux de mortalité néonatale les plus élevés se trouvent en Afrique. Et on a remarqué depuis un certain temps un engagement global assez important, aussi bien au niveau global qu'au niveau national. Et par exemple, il y a une création du partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Mm-hmm. Et au niveau national, un engagement de nos chefs d'État qui ont exprimé leur souhait de voir s'accélérer les interventions pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Et donc, on peut parler des opportunités, mais on n'y est pas encore. Hein.
Donc, c'est plus une question de partenariat, d'entraide entre différents groupes que simplement une question d'argent, de gros sous.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et maintenant, le défi, c'est de porter ces expériences au niveau, à l'échelle, et que ce soit des programmes nationaux réellement. Quand même, ça va nous mettre sur le chemin vers les objectifs du millénaire. Et donc, en 2015, on devra avoir réduit de deux tiers la mortalité de l'enfant de moins de 5 ans.
Le docteur Abimana Fanuel, l'un des co-auteurs du rapport « Une chance pour les nouveaux-nés en Afrique », je l'ai joint à l'OMS Afro à Brazzaville, au Congo. La France connaît une surmortalité masculine liée à l'alcool la plus élevée d'Europe, 30% supérieure à la moyenne, Philippe Duvaux.
Eh oui, c'est la deuxième cause de mortalité évitable chez nous après le tabac. Alors, le chiffre fait frémir, 45 000 décès chaque année. Un débat citoyen a été organisé dans les 26 régions françaises et cette semaine, clôture des états généraux de l'alcool pour préparer une refonte de la politique de santé. Serge a perdu son couple à cause de l'alcool. Son témoignage est émouvant, écoutez-le.
Une femme ne peut pas rester avec un homme qui boit, quoi. Il y a très peu de gens qui comprennent. Ça reste en France, je crois, un sujet tabou. Les gens vous répondent, bon, de toute façon, c'est parce que tu n'as pas de volonté, tu t'en sortiras jamais. C'est une maladie qui est très longue à soigner. Je la vaincrai, oui, mais il faut pas croire que ça se fait comme ça en claquant des doigts. On n'en est jamais guéri à 100%.
L'alcool au boulot, l'alcool en famille, l'alcool dans les soirées, bref, vous l'avez compris, cette liste n'est pas exhaustive. Le slogan en France « Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts » est donc toujours d'actualité, malheureusement.
Miss Romande 2002, Mister Suisse 2005, très proche, très très proche, l'un de l'autre à la une du matin.
Très proche.
La photo en fait foi.
Vous avez très proche.
Très proche, vous n'avez qu'à voir la photo. Mais attention, je vois vos sourires, c'est pour la bonne cause. Il prête donc Miss Suisse Romande 2002 et Mister Suisse 2005. Ils prêtent leur notoriété pour la campagne de pub d'une célèbre marque de préservatifs. Alors des bisous et bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi.
Le journal du matin, le grand 8.
L'Alliance pour une politique climatique responsable a publié hier un manifeste qu'elle a d'ailleurs remis au Conseil fédéral pour limiter les gaz à effet de serre. Elle demande, cette alliance, une taxe incitative sectorielle efficace. On va en parler dans le journal de Didier Duployé dans un instant. Alors les taxes, justement, ces taxes ne permettent-elles pas, d'une certaine manière, de s'acheter une bonne conscience écologique? On sait que les États peuvent s'acheter, par exemple, des droits de polluer, mais les privés peuvent aussi le faire. Le principe est assez simple, on va dire on pollue, on paye une taxe et l'argent va dans un projet écologique. Alors certains États le font, les privés en Suisse peuvent le faire lorsqu'ils prennent l'avion avec le My Climate Ticket. C'est une proposition qui émane d'une fondation mise sur pied par de jeunes diplômés en sciences de l'environnement de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Elle est soutenue d'ailleurs par le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Le droit de polluer, est-ce que c'est vraiment une solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde ou simplement une manière de se donner bonne conscience? Alors pour en parler ce matin, nous accueillons le directeur de My Climate, Renat Heuberger, qui est en direct de Zurich avec nous. Nous recevons également Balz Strasser, qui est coordinateur des programmes d'Helvetas, l'ONG suisse de coopération au développement. Helvetas qui utilise exclusivement ce système de My Climate pour faire voyager ses collaborateurs. Et puis Roger Nordmann nous a rejoint également. Il est conseiller national socialiste, membre de la commission de l'environnement. Alors Roger Nordmann, vous nous direz ce que vous pensez de ce type de taxe. Quant à Silvio Dolzan, il s'est offert d'une certaine manière ce droit de polluer lors de son dernier voyage à l'étranger. Il nous dira comment il a fait et pourquoi. On rit un peu parce que la différence est grande finalement au niveau. Il y a beaucoup de différences au niveau culturel. La langue, c'est difficile à l'apprendre. Vous l'évoquiez. On l'évoque avec Pierre Coller, avec vous, Georges-Marie Schmutz. Alors finalement, il faut quoi? Toute une vie ne suffit pas, Gérald Bérou, pour approcher cette culture chinoise. Vous, ça fait 20 ans hein, que toute une vie ne suffirait pas.
Bon, Confucius a dit qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est vrai, mais je pense que ce n'est pas propre à la Chine. C'est constant. Il ne faut pas non plus exagérer. D'ailleurs, c'est l'objet d'un débat entre sinologues, par exemple entre Jean-François Bilitaire et François Julien, qui, l'un ou l'autre, ne mettent pas le même poids dans ces différences. Et on a peut-être des fois tendance à les exagérer. Enfin, si je voulais faire mon beurre, je devrais au contraire dire que c'est extrêmement compliqué et qu'il faut absolument venir me voir pour comprendre, avoir les clés d'accès. Mais ça serait pas correct.
Oui et non, parce que moi, si vous me dites que c'est effectivement, ça a l'air si compliqué qu'il faut une vie pour l'apprendre, il y a aussi un grand découragement de se dire cette culture dans laquelle moi, en tant que citoyen lambda, j'aurais jamais accès à cette culture qui est tellement différente, tellement intrigante. Et c'est aussi une façon peut-être de repousser plus loin.
Vous apprenez à chaque étape. Vous vous ennuyez jamais. Que vous apprenez les caractères chinois, vous voyagez pour pas un sou. Et ça, c'est magnifique. Ouais. C'est incomparable.
Il faut aussi dire que les Chinois s'approchent de nous. Il faut aussi dire que les Chinois font le pas inverse vers nous. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, et on l'a vu par rapport à certains comportements, ils essayent, entre guillemets, de s'occidentaliser. Donc, les Chinois font un pas vers nous. Pour eux, notre tradition, elle est aussi étrange que pour nous la leur. Et nous, nous devons faire un pas vers eux. C'est un peu ça qui nous permettra de mieux nous comprendre à l'avenir. Mais c'est vrai que je pense par rapport à la Suisse, ils ont une culture et un passé qui est autrement plus riche que le nôtre.
Bon, tous ceux qui veulent bosser au jazz doivent s'adresser à Julia Nusslet au bureau du staff.
Oui, tout à fait. Donc on est 5 en tout pour accueillir les 1200 staffs qui viennent travailler ces 2 semaines.
Alors, ces membres du staff, c'est des salariés, c'est des bénévoles, c'est des bénévoles salariés, on les désigne comment?
Alors, moi, j'aime bien les désigner comme bénévoles. Par contre, ils reçoivent tous un défraiement. Donc, on les nourrit, on leur donne des jetons pour manger à midi. Et puis, on leur donne un petit défraiement pour couvrir leurs frais de déplacement et pour s'acheter quelques petites choses sur le festival. Ils reçoivent un badge qui leur donne accès aux 3 salles payantes. Donc, en dehors de leurs heures de travail, ils peuvent aller voir tous les concerts qu'ils veulent.
Bon, pour être bénévole ici, il faut quoi? Il faut être jeune, beau, branché?
Il faut pas forcément être jeune. On a des personnes qui ont même, je crois que le plus ancien a 70 ans. Donc on a des gens de 18 ans à 70 ans.
Le septuagénaire n'est pas encore sur le site. Par contre, beaucoup nous disent d'aller voir Monsieur Manchilo quelque part dans le dédale du centre des congrès. Excusez-moi, monsieur, vous savez où est-ce qu'on peut trouver un certain Manchilo?
Manchilo? Alors oui, il se trouve au A2.
Au A2, c'est-à-dire il faut...
Alors il faut descendre un étage et demi, là, juste là. Vous allez sur le couloir sur la gauche et vous allez tout au bout du couloir et vous allez trouver un grand monsieur avec des cheveux blancs et une queue de cheval.
Queue de cheval, cheveux blancs, d'accord, voilà. Merci beaucoup.
Mais de rien.
Alors, ah oui, ça doit être vous, monsieur Mancino, cheveux pas vraiment blancs, hein, grisonnants, queue de cheval, mais l'air tout à fait juvénile. C'est vous?
Oui, c'est moi.
Et vous faites quoi ici?
Je fais la sécurité. Ça consiste à vérifier l'entrée des gens.
Alors, il paraît que vous avez reçu une médaille de longévité ou de fidélité au festival, c'est vrai?
Oui, j'ai pas tout à fait reçu comme les autres parce que je voulais pas me annoncer et dire voilà, j'ai travaillé, j'ai pas travaillé. C'est le NOPS qui m'a donné, la sienne. Sacré NOPS.
Mais dites si, ça fait 30 ans hein, que vous fréquentez le festival,
oui.
Vous avez dû en vivre des anecdotes.
Ah, il y a eu des choses, J'ai rencontré Santana, j'ai bu un verre avec lui, il m'a donné quelques bouteilles de vin qui sont restées avant qu'il parte. J'ai rencontré aussi la fille Gérald, j'ai parlé aussi avec elle. Elle m'a même embrassé, je l'ai embrassé. C'est une mamie du cœur, comme on dit.
Et en Belgique, le monde enseignant est en ébullition. Les profs font même planer des menaces de grève, Robin.
Oui, des profs qui réclament plus de moyens, une ministre dont le budget est trop limité, c'est une situation qui est récurrente. Et dans les écoles, le malaise ne fait que s'amplifier. De moins en moins de jeunes ont envie de s'engager dans l'enseignement et ça commence à poser des problèmes, comme dans cette école bruxelloise.
Pour remplacer des professeurs de langue, nous avons eu la chance d'avoir des hôtesses, des anciennes hôtesses de l'air de la Sabena parmi nous. Ce sont des gens qui ont la compétence au point de vue linguistique, mais qui n'ont pas au point de vue pédagogique. Ce sont des gens qui ont fort souffert du contact avec les élèves parce que pas du tout préparés à ça.
Des arrêts de travail ont eu lieu dans les écoles jeudi, à prendre comme un avertissement alors que les négociations avec les autorités se poursuivent.
Et quand les enseignants belges sont en colère, Robin, ils peuvent avoir des réactions surprenantes. Ça s'est passé dans une grande école d'architecture chez vous.
Oui, à Liège précisément, des profs d'une école supérieure ont littéralement jeté leur directeur dehors. Ils le jugeaient incompétent, inutile et surtout très coûteux. Ces notes de restaurant, disent les profs, étaient faramineuses. Ils parlent de 18 000 euros en un an. Depuis 7 ans, ils réclamaient sa démission. Alors, ils ont fini par prendre les choses en main. Ils ont vidé le bureau du directeur, vendu son mobilier aux enchères et transformé le local en salle de classe. Évidemment, des sanctions administratives sont tombées. Une plainte en justice a même été déposée. Mais les profs rebelles sont soutenus par les étudiants qui ont même manifesté.
Les infos sur la première.
7h35, la revue de presse de Jean-François Moulin. Il avait quelque chose de Groucho Marx avec sa moustache et son sourire un peu ironique. Le cinéaste Daniel Schmid est mort.
Locarno a pris la nouvelle de plein fouet. Et la presse romande et alémanique d'ailleurs, ne cache pas une réelle tristesse ce matin. C'est tout le cinéma suisse qui est en deuil, résume ainsi le journal Le Temps. Et Thierry Jobin, l'envoyé spécial du Temps à Locarno, a recueilli dans un article toute une série de témoignages émus, bien évidemment. Daniel Schmid vivait vraiment pour son métier, dit par exemple le directeur des journaux de Soleure. Il ne pratiquait absolument pas le professionnalisme que les instances fédérales prônent actuellement. Et à chacun son petit mot pour saluer et pleurer, celui que certains qualifient de poète du cinéma suisse. Son jeune collègue, le cinéaste Lionel Bauer, souhaite à Daniel Schmid, dans un hommage publié dans 24 heures, lui souhaite de retrouver Rainer Werner Fassbinder, des gens qui manquent. Schmid et Locarno, c'était un vieux couple, écrit pour sa part Pascal Gavillet dans la Tribune de Genève. Un vieux couple avec ses bisbilles, ses retrouvailles, ses embrassades. Sa mort lors de la 59e édition du Festival de Locarno sonne un ultime pied de nez, hélas symbolique, comme le dernier chapitre d'une histoire inachevée.
L'homme au regard d'enfant, c'est ainsi que la presse alémanique évoque le cinéaste originaire des Grisons, Thierry Deleuze.
Oui, le regard d'un enfant curieux, c'est la description qui ressort le plus souvent ce matin dans la presse, avec des yeux d'enfant, titre par exemple Sangaler Tagblatt. Et puis on peut voir ces photos, ces portraits de Daniel Schmidt, ce regard serein derrière lequel on devine une profonde réflexion et des interrogations sur le monde. À Berne, le Bund parle lui aussi d'un homme constamment habité par un regard d'enfant curieux et malicieux, un cinéaste à la fois très proche de son Grison natal, mais dont l'œuvre était en même temps très internationale. Grison et universel, tous les journaux le relève également, plus particulièrement la Süddeutsche, bien sûr. Le quotidien Grison rappelle à quel point l'origine grisonne de Daniel Schmidt a influencé son œuvre. Le journal évoque aussi l'aspect unique et différent du cinéaste qui a toujours cherché à montrer dans ses œuvres le côté aberrant et étrange de l'existence, comme dans Il Bacio de Tosca, son film le plus abouti selon l'éditorialiste. Un film au travers duquel transparaît toute la passion de Daniel Schmidt pour l'opéra et son art de la mise en scène, souligne la Neue Zürcher Zeitung.
Salut!
Bonjour, je passerai pour faire un tatouage.
Ouais, qu'est-ce que tu aimerais faire comme tatou?
Je m'appelle Cécile, j'ai, mon Dieu, quelle horreur, 35 ans le mois prochain. Je suis mariée depuis un peu plus de 13 ans et maman de deux enfants.
Et vous avez pas mal de tatouages, on peut faire un petit tour d'horizon?
Un petit tour d'horizon, alors il y a un dos complet qui a été effectué en plusieurs étapes par 5 tatoueurs différents. J'ai une petite pièce dans le cou qui a été faite en convention à Comté. Ensuite, un petit lézard sur le pouce gauche, également fait en convention. Et ensuite, deux petits motifs identiques à l'arrière de mes mollets et un cœur sacré à l'intérieur de mon poignet gauche.
Comment ça vous est venu, cette envie de vous faire tatouer?
Alors ça a commencé, je crois que je devais avoir à peu près 11 ans, lorsque mon papa est rentré la première fois avec son premier tatouage. Alors là, ça a été une grande découverte. Un dessin qui partait pas, ça c'était le top. Les années ont passé, mon père a continué à se faire tatouer, et puis à l'âge de 15-16 ans, j'ai tapé un petit peu sur les nerfs à papa, à maman, je veux un tatouage, et pour ton anniversaire un tatouage, et pour Noël un tatouage, et comme cadeau de un tatouage. Jusqu'au moment où ils ont craqué, et pour mes 16 ans et demi, mon père m'a offert mon premier tatouage, que je porte toujours d'ailleurs, qui a été intégré à mon dos.
On est ici donc à Sion, capitale du Valais. On peut avoir comme ça l'idée, peut-être l'a priori, que c'est un canton assez conservateur. Quand on a plein de tatouages et puis quelques piercings comme vous, on passe inaperçu.
Alors ma fille m'a fait la réflexion l'autre jour. « Ah maman, il faut que tu saches, hein, on te regarde bizarre. » Bon, ben on me regarde bizarre. Au bout du compte, c'est comme ça. En ville, ça passe. À la piscine avec mes enfants, ça passe. Est-ce que j'impressionne en quelque sorte, puis qu'on n'ose pas venir me faire de réflexion? Mais je crois que c'est surtout que les gens s'en fichent un petit peu, quoi. Tant qu'on ne marche pas sur leur plate-bande, le reste, ça les laisse un petit peu indifférents malgré tout. À partir du moment où on est poli, on est souriant, et qu'on est correct dans sa façon de s'exprimer, ça pose pas plus de problèmes que tant. Il y a toujours la première image qui peut braquer quelque peu, mais au bout d'un petit moment, bien, ça passe en arrière-plan.
Est-ce que vous avez déjà en tête votre futur tatouage?
Oui, je l'ai déjà. J'ai mon bras gauche qui est tout nu, encore. Et j'ai l'impression que je penche un petit peu d'à côté, justement. Donc, je suis en train de réfléchir à un projet de Vierge Noire, probablement, que j'aurai sur mon bras gauche. Voilà.